votre compagnie. J'ai le grand plaisir d'être par téléphone en compagnie de Daniel Thierry, qui vient de faire paraître chez Rivage Noir, Dernier Sanglot. Daniel Thierry, bonjour.
Bonjour.
Si je vous invitais aujourd'hui, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que nous faisons une émission, car j'ai eu le plaisir recevoir pour des précédents romans. Rappelons pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais ils ne doivent pas être très nombreux maintenant, parce que vous êtes quand même dans le métier du roman depuis pas mal d'années. Vous avez été une des premières femmes commissaires de police.
Oui.
Et d'ailleurs, en deuxième partie d'émission, nous pourrons peut-être un petit peu parler de cela. Mais nous allons surtout parler de Dernier Sanglot, qui est votre tout nouveau roman paru chez Rivage Noir, avec votre héroïne de prédilection, si l'on peut dire, qui est Edwige Marion.
Oui, alors pour moi, ce n'est pas une héroïne, parce que il y a une connotation pour héros-héroïne, vous savez, on dit souvent chez nous, dans la police, que les héros sont des gens morts. Hein. Donc, c'est plutôt un personnage principal, une espèce de mon double littéraire, en quelque sorte, qui m'a permis de raconter pas mal de choses, de dire pas mal d'histoires, de mes histoires d'ailleurs, à travers la fiction. Voilà.
Oui, elle a déjà fait plus d'une douzaine d'enquêtes.
C'est la 16e, celle-là.
16e même, 16e, oh là là.
16e, oui, ça fait 30 ans qu'elle est avec moi. J'allais dire que je me la trimballe, parce que par moments, c'est un peu ça, vous savez, les personnages...
On va en parler tout à l'heure, savoir s'il n'y a pas justement un problème de lassitude, mais bon, on n'en est pas encore là. Là, ce roman commence avec un personnage qui travaille dans une société chargée de nettoyer des scènes de crime. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ce genre de société existe ?
Mais bien sûr que ça existe. D'ailleurs, l'idée m'est venue du livre, en tout cas de cette partie-là, par mon petit-fils qui a deux camarades qui ne font plus ça aujourd'hui, mais à qui mon petit-fils, donc je lui pose la question un jour, qu'est-ce qu'ils font tes copains? Il me dit ils travaillent, ils sont nettoyeurs de scènes de crime. Oh, je dis bon, c'est quoi ce truc? Et donc parce que c'est vrai que nous les policiers, une fois qu'on a levé les scellés, qu'on a rendu les lieux aux propriétaires, ou qu'on a pu à travailler dessus, on s'inquiète pas trop de savoir ce qui se passe par la suite, quoi. Et effectivement, ces sociétés existent, et ces deux garçons travaillaient pour une entreprise de ce genre, qui fait des nettoyages de scènes de crime, mais pas seulement, bien sûr, parce que fort heureusement, il n'y a pas des crimes tout le temps à nettoyer, mais des accidents domestiques, des scènes de suicide, enfin, toutes choses, si vous voulez, et puis ces espèces d'amas de déchets, de détritus, ce qu'on appelle les diogènes.
Tout à fait.
Avec des intérieurs et des maisons ou des appartements qui sont dans un tel état que quand on les récupère, il n'est pas possible de faire ça soi-même. Voilà. Et donc, je leur avais demandé s'ils avaient une scène de crime à nettoyer, et je les ai accompagnés pour voir comment ça se passait. J'allais dire amusant, pas du tout amusant, mais en tout cas... extrêmement intéressant, parce que c'est encore une fois quelque chose que, pour ma part, je découvrais à ce moment-là.
Voilà. Alors, la société s'appelle Clean Total Service, nettoyage total.
Clean Total Service, oui, c'est ça.
Mais lorsqu'on fait métier...
Il n'y en a pas énormément de ces entreprises, bien
heureusement.
Sûr. Heureusement. Ça voudrait dire que... Mais enfin, quand même, professionnellement, il m'est arrivé aussi de débarquer dans des intérieurs, dans des appartements. D'ailleurs, j'en cite un dans le livre, dans Dernier Sanglot, puisque Marion revient sur certains souvenirs qu'elle a pu accumuler au cours de sa carrière, qui sont bien sûr des souvenirs de moi. Hein. C'est moi qui ai vécu les scènes qu'elle décrit, qu'elle raconte. Et donc, j'avais croisé un de ses intérieurs avec cette personne, cette dame qui était décédée chez elle à l'insu de tout le monde. Enfin, et qui vivait cloîtrée depuis la fin de la guerre, parce qu'elle pensait que la guerre n'était pas finie. Elle était persuadée que la guerre n'était pas finie et qu'elle courait un grand danger en sortant de chez elle. Voilà. Bon, alors c'était dans les années 1970, évidemment. Ça n'est pas aujourd'hui, ça serait beaucoup trop loin dans le temps. Mais j'avais envie de parler de ça, parce que ce sont des réalités auxquelles on est confrontés.
Dans les années 70, on avait retrouvé, si mes souvenirs sont bons, un soldat japonais qui était toujours sur une île, enfin dans la jungle, si on peut dire, et qui pensait que la guerre n'était pas terminée non plus.
Voilà, oui, c'est ça, c'est ça. Bon, sauf qu'elle, là, elle était dans une grande ville et qu'elle avait des voisins et que quelqu'un aurait pu lui dire, le facteur, ne serait-ce que le facteur qui lui apportait tous les mois la pension de sa tante qui avait disparu, mais elle n'avait évidemment pas signalé la disparition. Et il lui apportait scrupuleusement ses sous. Et jamais personne ou alors quelqu'un lui a dit, mais elle ne l'a pas cru. En tout cas, voilà, c'était une réalité. Elle était enfermée chez elle et elle vivait entre des murailles de boîtes de conserve dans lesquelles elle faisait ses besoins, parce qu'évidemment, les toilettes, tout ça était hors d'usage depuis longtemps. Et c'est bon, c'est vraiment un cas exceptionnel, hein. Je
Bien
dirais,
sûr. Mais
j'en ai pas
ce
rencontré
syndrome de
beaucoup, mais
Diogène, ça ne touche pas forcément des personnes clochardisées. Ça peut être des gens
non,
très
pas du
bien.
tout. Bien sûr, non, mais c'est un syndrome psychologique qui s'apparente un peu à ce que j'explique aussi dans le, à ce que je traite aussi dans le livre, c'est-à-dire ce syndrome d'enfermement volontaire, quoi, qui est
Alors, c'est avec un mot
subitement.
japonais.
Oui, hikikomori, ça s'appelle.
J'ai vu un article il y a quelques mois d'ailleurs consacré à des jeunes
Oui,
gens.
absolument, absolument, oui. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, ce qui veut bien dire que ça n'est pas réservé, comme vous dites, à des gens ou clochardisés ou marginalisés ou qui seraient dans un état enfin, personnel tel qu'ils ne pourraient pas faire autrement. D'ailleurs, c'est quasiment impossible parce que les jeunes dont vous faites état, on le voit beaucoup au Japon, hein, d'ailleurs, c'est comme ça. Ça a été observé là-bas, mais
C'est
pas
pour
qu'au
ça que c'est
Japon,
un nom
bien sûr.
japonais, que le nom est japonais
Voilà.
d'ailleurs.
Le nom est japonais, ce sont des jeunes, souvent des garçons d'ailleurs, qui restent au sein de la famille, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur chambre, ils ne sortent pas de leur chambre. Bon, voilà, ils jouent à des trucs, ils jouent à des jeux vidéo, ils sont sur leurs écrans, évidemment, aujourd'hui, la plupart du temps. Et ils ne sortent pas de leur chambre, c'est-à-dire qu'il faut leur apporter à manger dans la pièce, il faut les prendre en charge complètement. Et bon, il y a certainement des choses à faire, hein, les faire consulter, les montrer à un psy, certainement, mais c'est quand même quelque chose qu'effectivement assez répandu, quelque chose assez répandu, qui a été d'ailleurs un peu favorisé aussi par la période de confinement, hein, par
Bien sûr.
la crise sanitaire du Covid, où là, il y a beaucoup de gens, dont certains, moi, que je connais bien, qui, une fois le confinement terminé, se disaient, mais finalement, j'étais bien chez moi, j'étais bien dans mon cocon, j'étais pas obligée de sortir, j'étais pas obligée de faire risette à mes collègues de travail, j'étais pas obligée de partager la cuisine avec eux, j'étais pas obligée d'aller à des réunions, tout se faisait par écran interposé. Et ça a vraiment exacerbé un petit peu ce syndrome alors, on l'a appelé, nous, en France, la coquille, la cabane, le syndrome de l'escargot, et qui reste un peu qui reste dans son coin, qui n'a pas plus du tout envie de sortir. Alors, ça ne va pas jusqu'à s'enfermer volontairement, comme la situation extrême qui est décrite dans le roman. Mais ça s'apparente parfois quand même, hein.
Je pense que avec tout ce que l'on utilise maintenant à ordinateur et autres, cela ne peut que se développer.
Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Si on ajoute à ça que le monde extérieur est quand même extrêmement anxiogène, parce que qu'est-ce qu'on nous raconte à longueur de journée? Qu'il y a la guerre ici, qu'il y a la guerre là, qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans l'histoire aussi. De cette façon-là, que de plus en plus l'intelligence artificielle va nous remplacer. Enfin, moi, je trouve que la période est quand même particulièrement compliquée. Et voilà, on en arrive à ce que les gens se disent, bah, finalement, tant que je suis chez moi, je suis à l'abri. Je me protège à ma façon.
Autre, dirons-nous, forme psychologique ou autre que j'ai découvert tout à fait dans votre ouvrage, c'est la tatophilie.
Ah oui, la tatophilie, oui.
Je n'avais jamais entendu parler de ce terme, je l'avoue.
Ah bon, c'est vrai? Alors moi, je le connais un peu parce que j'ai vécu 25 ans près du Père Lachaise,
ah oui, effectivement.
Cimetière.
Alors il faut expliquer que ce sont les gens qui sont attirés, qui vivraient presque tout le temps dans le cimetière.
C'est ça, qui ont une attirance, bon, évidemment, un peu morbide, et pour cause, pour le coup, ça s'explique comme ça, mais pour les cimetières, pour les tombes, alors pour certains, c'est ça va très loin, ils vont parler aux morts, ils se laissent enfermer la nuit pour être encore plus près, voilà. Donc ça s'appelle la tatophilie, effectivement, et c'est... alors, pareil, c'est pas un syndrome qui court les rues. On va pas dire qu'il y en a plein, plein partout, mais dans chaque cimetière a son histoire. Et pour m'être un peu penchée sur celle du Père Lachaise, justement, à une époque où, d'ailleurs, c'était pour mon tout premier roman que j'avais situé en partie dans ce truc-là, quoi. C'est un garçon qui allait sur les tombes et qui alors lui, c'était pas pour parler aux morts, mais c'était pour dérober des ornements funéraires. Et voilà, ouais, c'est une espèce de collectionnite, parce qu'il y en a aussi, ça existe, des gens comme ça, qui collectionnent les couronnes mortuaires, les crucifix, voilà, les ornements. Et on trouve de tout, hein, dans ces endroits-là. Et quand j'avais fait ce livre, je m'étais rapprochée donc de mes collègues du commissariat de l'arrondissement qui gère le Père Lachaise, et j'avais eu accès à tout un tas de situations comme ça. En plus, les gens qui vont orner les tombes de personnes disparues depuis des décennies et des décennies, le mage Kardec, Jim Morrison.
Ah bah, la tombe d'Alan Kardec, il y a toujours beaucoup de gens autour. Ça,
tout le temps,
m'est arrivé d'aller visiter le cimetière, oui, du Père Lachaise, parce qu'il y a des endroits, oui, très agréables à voir, enfin très, oui, historiquement, j'entends par là. Et
oui,
Alan Kardec,
sûr, oui.
Il y a des spirites vrais ou faux qui sont toujours autour. Oui. Nous allons, si vous le permettez, laisser passer un court communiqué.
Oui.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie de Daniel Thierry pour parler de Dernier Sanglot, qui est la nouvelle histoire dans laquelle nous retrouvons donc Edwige Marion. Et alors là, ça va peut-être déconcerter nombre de vos lecteurs. Il semblerait que Dernier Sanglot, ça veut peut-être dire que c'est sa dernière enquête.
Alors, a priori, ça serait ça. Mais bon, vous savez, avec Edwige Marion et avec sa mère littéraire que je suis, on ne peut jamais jurer de rien. On ne peut pas, je ne peux pas, voilà. On l'a déjà plus ou moins effleuré tout à l'heure, mais le sujet du personnage récurrent, après 16 enquêtes, c'est compliqué quand même, hein. Voilà, il faut lui trouver du grain à moudre, il faut lui trouver chaque fois des nouvelles enquêtes, il faut s'adapter aux nouvelles techniques d'enquête aussi, parce que bon, même si je me suis tenue au courant, et à plus forte raison, je me suis tenue au courant puisque j'ai écrit un livre avec la directrice du laboratoire de police scientifique de Paris, mais là, qui est paru début de l'année, mais néanmoins, mettre en scène des enquêtes aujourd'hui, dans la période contemporaine, c'est presque un défi quand on est déjà à la retraite depuis pas mal de temps, quoi, hein. Et par rapport à ce que j'ai connu, moi, à l'époque où je faisais des enquêtes criminelles, ça n'a plus rien à voir. C'est le jour et la nuit. Donc, bon, il y a cet aspect des choses. Il y a aussi le fait qu'à la force et à la longue, même si les lecteurs restent fidèles et attachés à elle, bon, moi, je me dis qu'à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose.
Enfin, alors, Arthur Conan Doyle avait tué Sherlock Holmes.
Oui,
il a regretté,
justement,
puisqu'il à la demande des lecteurs, voilà, qui étaient vraiment...
Non, mais c'est ça. Et j'avais essayé de faire la même chose, moi, d'ailleurs. sans me souvenir du reste à cette époque que Conan Doyle avait fait ce coup-là à Sherlock Holmes. Et j'avais eu l'idée de tuer mon personnage principal, donc Edwige Marion, dans un livre qui s'appelle Le crime de Seine, et où au début, tout début du livre, elle va à un rendez-vous, elle prend une balle dans la tête, pas n'importe où en plus. Et au fur et à mesure que j'écrivais l'histoire, mon éditeur, qui était déjà Rivage, François Guérif, chez Rivage, me disait, tu es sûr que tu veux la tuer parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Rappelle-toi Conan Doyle avec Sherlock Holmes, il est tellement, tellement, tellement le dos au mur avec ses lecteurs qu'il est obligé de refaire revenir Sherlock, et dans des conditions évidemment qui sont complètement capillotractées, puisqu'il le ressuscite et ça n'a plus aucun sens, quoi. Donc j'avais décidé qu'elle était effectivement bien amochée, mais qu'elle survivait. Voilà. Et là, dans le 16e opus, donc dans Dernier Sanglot, sans révéler quoi que ce soit de la fin, elle ne meurt pas.
Hein, il y a quelqu'un d'autre quand même, on ne va pas dire qui, mais il va y avoir quand même un décès qui va la traumatiser.
Oui, bien sûr, mais elle est vivante. Voilà.
Heureusement.
Ce qui autorise, oui, et ce qui autorise peut-être à la revoir. Bon, alors peut-être que ce sera sous les traits de sa fille, qui envisage aussi de faire carrière dans un de ses métiers de la police ou proche de la police, hein, entre les psychocriminologues, entre les ingénieurs experts en ceci, cela, en biologie, en balistique, et un certain nombre d'autres métiers, parce que la police, c'est tout un tas de métiers, ça n'est pas que ce que l'on voit, ce que les séries télévisées nous servent à longueur de temps. Le policier, qui d'ailleurs est tout seul, alors que ce n'est jamais le cas, c'est toujours un ensemble de personnes qui travaillent sur une enquête. Donc peut-être que la fille de Marion, à un moment donné, va sortir ressortir dans une histoire. Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore de projet.
Alors,
concret.
Il y a également un autre personnage qui est un jeune policier, bon, qui est rattaché à un commissariat, qui ne devrait pas prendre d'initiative. Ouais. C'est moi qu'on puisse dire. C'est un simple, un débutant. Et lui, vraiment, il a le feu sacré parce qu'il veut vraiment participer à des enquêtes. Enfin,
oui,
à cette enquête
ça,
en particulier.
Comment ?
Il veut absolument, vraiment, il fait tout pour participer, il le fait bien, à cette enquête en particulier.
Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est-à-dire qu'il est confronté à une situation qui, pour la plupart de ses collègues et même le commun des mortels, paraîtrait totalement normale, banale et tout ce qu'on veut. Il voit une femme à sa fenêtre et il a l'impression que cette femme est en train de... Enfin, ou de l'appeler au secours, ou de un besoin quelconque, et c'est comme ça que ça commence. Mais bon, vous savez, j'en ai connu, moi, des gens comme ça qui... D'ailleurs, il y a une affaire, une histoire vraie qui sans doute était dans ma tête et dans ma mémoire quand j'ai mis en scène ce personnage. C'est quelqu'un, c'était, je ne sais pas si c'était un policier d'ailleurs, mais je crois que c'est un policier qui passait tous les jours devant une maison, et qui voyait toujours, souvent, derrière la fenêtre, un enfant, une petite fille, je crois, qui, voilà, ça lui paraissait bizarre. Il avait l'impression que cette petite avait besoin de quelque chose, qu'il y a quelque chose n'allait pas. Et finalement, un jour, il a pris le taureau par les cornes et il est allé voir. Et effectivement, il y avait bien une anomalie grave qui se passait avec cet enfant, quoi. Voilà. Donc,
la réalité dépasse la fiction.
Oui, la réalité dépasse la fiction. Et puis parfois, il faut. D'ailleurs, c'est ce que lui dit son chef. Si tu t'arrêtes chaque fois qu'une femme, tu vois une femme derrière sa fenêtre, ben, mon garçon, t'as pas fini, quoi. Mais lui, voilà, il s'obstine parce qu'il est persuadé qu'il y a quelque chose. Alors, il y a effectivement quelque chose, mais c'est pas ce à quoi il pensait.
Votre précédent roman emmenait vos lecteurs à New York. Alors, dans cette affaire, il y avait une petite fille qu'on trouvait dans une voiture. Dans le roman actuel, dans celui dont nous parlons, Dernier Sanglot, il y a un garçon qui recherche son enfance en quelque sorte. La recherche de l'identité personnelle est très importante dans certains de vos romans.
Alors, peut-être dans la plupart, oui, c'est vrai. Mais je sais pas, les enfants m'ont toujours beaucoup touchée dans ce qu'ils pouvaient vivre, dans ce qu'on pouvait leur faire vivre aussi ou leur faire subir. Bon, c'est un peu le point de départ de mon, j'allais dire ma vocation, c'est pas du tout le cas, c'était pas vraiment une vocation, mais ma volonté de faire ce métier à un
Vous
moment
êtes quand même
donné
d'une
de ma
famille
vie.
du métier, si l'on peut dire, à l'origine.
Comment?
Vos parents, enfin, dans votre famille, vous avez eu tout de même des policiers également.
Oui, bah mon père, oui, mais mon père était instructeur sportif, donc on peut pas dire
Oui, c'est ça
que
que.
c'était l'enquête qui le motivait ou ouais, il s'occupait, il formait les policiers aux arts martiaux. Et puis bon, j'ai un frère aussi qui a été mon frère aîné a été gardien de la paix, puis brigadier, major de CRS. Mais voilà, lui, il n'avait pas vraiment d'envie professionnelle et il a fait ça comme il aurait fait autre chose.
Bien sûr.
Enfin, bon, c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais voilà, lui, il n'est pas parti en se disant je veux sauver le monde. Moi, c'était ça que j'avais en tête.
Bien sûr.
Parce que le monde est en danger, monsieur, vous savez.
Oh que oui, oh que oui.
Non,
Nous
mais
le constatons tous les jours
attendez,
en écoutant les
sauver le
informations,
monde, c'est
malheureusement.
évidemment, c'est une vieille expression, notamment de quand on a 20 ans, j'avais 20 ans en 68, donc c'était ça qui nous motivait, c'était changer tout, refaire tout, parce que tout était à refaire, et en particulier, donc ben aller faire des choses qui servaient, qui étaient utiles, parce que le métier de police, c'est quand même le secours, d'abord et avant tout, hein, l'aide aux autres. Et
Et
premier
donc,
secours et dernier recours, je dis parfois, c'est une formule, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, quoi.
on peut dire que ce que vous faites maintenant, c'est aussi d'utilité publique, c'est de pouvoir distraire les lecteurs grâce à vos romans. Nous arrivons au terme de cette émission, Daniel Thierry, ça va très très vite,
Oui,
moins un peu
ben oui.
presque 30 minutes. Alors, le roman, je le rappelle, c'est Derniers Sanglots, c'est paru chez Rivage Noir. Eh ben, pour la finale musicale, j'ai pensé à des sanglots, mais aux sanglots longs des violons de l'automne chantés par
Ouais.
Charles Trenet, puisque Charles Trenet avait
Ouais.
interprété Verlaine. Merci à vous
Oui.
d'avoir participé à cette émission.
Et Charles Trenet a été mon voisin pendant quelques années.
En plus, voyez-vous, c'est magnifique.
Voilà.
Merci à vous. Je vous
Merci.
reprends en antenne.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, tout suffocant et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte. paisible rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte.